13, du soin de l'État, pour la sûreté par la punition, des transgressions aux lois édictées par lui, loi pénale. Chapitre 13, 2. Et c'est sur les limites de l'action de l'État, par Wilhelm von Humboldt, 1767-1835, traduit de l'allemand, par Henri Chrétien en 1867, le dernier moyen, le plus important peut-être, de travailler à la sûreté des citoyens et de punir la violation des lois de l'État. Je dois donc encore appliquer à cette matière les principes développés plus haut. La première question qui se pose alors est celle de savoir à quels actes l'État doit attacher une peine et donner le nom d'infraction. Ce qui précède rend la réponse facile. En effet, l'État, ne devant poursuivre d'autre but que la sûreté des citoyens, ne doit empêcher que les actes qui vont contre ce but. Mais ces actes méritent une pénalité proportionnée à chacun d'eux. En effet, le tort qu'il cause, attaquant ce qui est le plus indispensable à l'homme pour son bien-être et le développement de ses facultés, est trop grave pour qu'on ne le combatte pas par tous les moyens efficaces et permis. Aussi les principes les plus élémentaires du droit commandent-ils à tout homme de souffrir, que son châtiment pénètre autant dans le domaine de son droit que son crime a fait infraction dans celui d'autrui. Par contre, on ne saurait punir les actes qui ne se rattachent qu'à leur auteur ou qui se produisent du consentement de celui qu'ils atteignent. Tous les principes s'y opposent et défendent même qu'on les entrave. On ne doit donc punir aucune de ces infractions charnelles appelées fautes contre les mœurs, le viol excepté, qu'elles causent ou non du scandale. Non plus que la tentative de suicide, etc. Même la mort donnée à autrui du consentement de la victime devrait rester impunie, si dans ce dernier cas, le danger d'un abus trop facile ne rendait nécessaire une pénalité. Outre les lois qui interdisent les attaques directes aux droits d'autrui, il en est d'autres d'une nature différente, dont une partie a déjà été signalée plus haut, et dont le reste sera encore mentionné par la suite. Toutefois, en ce qui concerne le but assigné précédemment à l'État en général, ces lois contribuent d'une manière seulement médiate à le faire atteindre. La pénalité sociale peut donc y trouver place, à moins que la violation du droit à elle seule entraîne automatiquement sa sanction, comme dans le cas de la violation de la prohibition des fidéicommis, qui entraîne la nullité de la disposition principale. Cela est d'autant plus nécessaire qu'autrement l'obéissance due à la loi serait privée de toute sanction. À propos de la pénalité, je me tourne de son objet vers la peine elle-même. Je considère comme tout à fait impossible d'en prescrire la mesure, fût-ce dans de très larges limites, de déterminer le degré qu'elle ne devrait jamais dépasser, d'une manière absolue, et sans s'appuyer en aucune manière, sur des considérations tirées des conditions locales. Les peines doivent être des maux qui effrayent l'infracteur. Mais leur degré, ainsi que la sensibilité physique et morale, varient à l'infini suivant les contrées et les temps. Par suite, ce qui, dans un cas donné, sera justement considéré comme une cruauté, peut, dans un autre cas, être exigé par la nécessité elle-même. Mais il est bien certain que les peines, à efficacité égale toutefois, se rapprochent de la perfection en raison directe de leur douceur. Ce n'est pas seulement parce que des pénalités douces sont en elles-mêmes des maux plus tempérés, mais c'est qu'elles détournent l'homme du crime de la manière la plus digne de lui-même. Moins elles sont douloureuses et terribles physiquement, plus elles le sont moralement. Au contraire, une grande souffrance corporelle affaiblit chez le patient le sentiment de la honte, et chez le spectateur, celui de la désapprobation. Il s'ensuit que des pénalités douces peuvent être appliquées bien plus souvent qu'un premier aperçu ne paraît le permettre, puisqu'elles sont dotées d'un contrepoids moral réparateur. En général, l'efficacité des peines dépend entièrement de l'impression qu'elles produisent sur l'âme de l'infracteur. On pourrait presque dire que dans une série de pénalités bien graduées, peu importe l'échelon où l'on s'arrêtera, en la considérant comme le sommet de l'échelle, car en réalité l'influence d'une peine ne dépend pas tant de sa nature en soi, que de la place qu'elle occupe dans la série des peines en général. Et l'on reconnaît facilement comme la plus grave de toutes celle que l'État présente comme telle. Je dis presque, car cette idée ne serait entièrement exacte, que si les peines édictées par l'État étaient les seuls mots à menacer le citoyen. Or comme il n'en est pas ainsi, et comme bien souvent des mots très réels le poussent directement au crime, la mesure du plus grand châtiment, comme celle des peines en général qui sont destinées à combattre ces mots, doit être déterminée suivant leur nature. Quand le citoyen jouira d'une liberté aussi grande que ce travail a pour but de la lui assurer, l'augmentation de son bien-être viendra s'y ajouter. Son âme sera plus sereine, son imagination plus douce, et la peine pourra perdre de sa rigueur, sans perdre de son efficacité. C'est ainsi qu'il est vrai que le bien moral et les causes du bonheur sont unis dans une harmonie admirable, et qu'il suffit d'adopter et de pratiquer le premier pour se procurer toutes les autres. Tout ce que, selon moi, on peut dire avec précision en cette matière, c'est que la peine la plus élevée doit être aussi douce que le permettent les conditions particulières ou locales dans lesquelles se trouve la société. Mais il est une classe de peine qui devrait, selon moi, être entièrement écartée. Je veux parler de la flétrissure, de l'infamie. L'honneur d'un homme, la bonne opinion que peuvent avoir de lui ses concitoyens, ne sont pas choses que l'État ait en quoi que ce soit en son pouvoir. Dans tous les cas, cette peine se réduit donc à ceci. Que l'État peut retirer à l'infracteur le signe de son estime et de sa confiance, à lui État, et qu'il peut permettre aux autres hommes d'en faire autant sans être puni. Il est impossible de lui refuser l'exercice de ce droit quand il le juge nécessaire. Cela peut même être pour lui un devoir impérieux. Mais je crois que l'État aurait tort de déclarer d'une manière générale qu'il entend appliquer cette peine. Car d'une part, une telle déclaration suppose chez celui qui est puni une certaine logique du crime, qui, en fait, se rencontre, au moins selon l'expérience, seulement très rarement. Et d'autre part, si souple qu'en soient les termes, cette déclaration, même quand elle est exprimée uniquement pour expliquer la juste défiance de l'État, est toujours trop indéterminée pour ne pas permettre certains abus, et pour ne pas y voir rattacher bien plus de cas qu'il ne serait nécessaire, ne serait-ce qu'au nom de la simple cohérence des principes. La confiance que l'homme peut inspirer à l'homme est d'une nature fort diverse. Elle change avec la nature des faits. Elle est tellement variable qu'entre toutes les infractions, je ne sais trop si l'en est une qui enlève à son auteur toutes sortes de confiance, de la même manière, et au même degré. C'est pourtant à cela que conduisent toujours les formules générales. Et, dans ce système, l'homme dont on se rappellerait seulement, à l'occasion, qu'il a transgressé telle ou telle loi, porterait alors partout le signe de son indignité. La dureté de cette peine est attestée par un sentiment qui n'est sans doute étranger à aucun homme. C'est que, sans la confiance de ses semblables, la vie même cesse d'être désirable. De plus, l'application de cette peine soulève encore bien d'autres difficultés. Le manque de confiance en la loyauté doit en principe être le résultat partout où celle-ci s'est montrée insuffisante. On aperçoit aisément à quel nombre immense de cas cette peine s'appliquerait. On ne rencontre pas moins de difficultés dans la question de savoir quelle doit être la durée de la peine. Incontestablement, tout esprit équitable ne voudra l'étendre qu'à un temps déterminé. Mais le juge pourra-t-il faire qu'un homme privé si longtemps de la confiance de ses concitoyens puisse, un certain jour, la regagner? Enfin, il est contraire à tous les principes posés dans ce travail que l'État ait la volonté de donner, de quelque manière que ce soit, une certaine direction à l'opinion des citoyens. Suivant moi, il vaudrait mieux que l'État se renferme dans les limites du devoir qui lui incombe toutefois, qui l'oblige à protéger les citoyens contre les personnes suspectes partout où cela pourrait être nécessaire. Il déciderait au moyen de lois express, par exemple pour la nomination aux places, pour l'autorité des témoignages, pour la capacité d'être tuteur, etc. Que celui qui aurait commis tel ou tel crime, qui aurait encouru telle ou telle peine, ne pourrait remplir ses charges. Du reste, l'État devrait s'abstenir de toute disposition générale, ou plus étendue, sur l'indignité, ou la perte de l'honneur. Il serait très facile alors de déterminer un délai à l'expiration duquel cette incapacité cesserait d'exister. Par ailleurs, il n'est pas besoin de rappeler que l'État a toujours le droit d'agir sur le sentiment de l'honneur au moyen de peines infamantes. Je n'ai pas besoin davantage de dire qu'aucune peine, qui, en dehors de la personne du coupable, frapperait ses enfants ou ses parents, ne doit être tolérée. La justice et l'équité repoussent également ces peines. Et même la prudence avec laquelle le code prussien, excellent à tous égards, s'exprime à leur occasion, ne saurait parvenir à tempérer la dureté qui s'y rattache forcément 25. Lefkur Libraket. 25 partie 2, titre 20, marque de section 95. Si la mesure absolue des peines se refuse à toute détermination générale, il est d'autant plus nécessaire d'en fixer la mesure relative. Car il faut poser la règle d'après laquelle on devra déterminer le niveau des peines établies dans les différents crimes. D'après les principes ci-dessus développés, il me semble qu'il ne faut considérer pour cela que la gravité de la violation du droit d'autrui contenue dans le méfait. On jugera de cette gravité en étudiant la nature du droit auquel l'infraction porte atteinte, car il ne s'agit pas ici de l'application d'une loi pénale à un criminel isolé, mais bien de la détermination de la peine en général. À la vérité, le mode le plus naturel d'y arriver paraît être de considérer le degré de facilité ou de difficulté qui existe à empêcher le crime. De telle sorte que la gravité de la peine devrait se régler d'après la quantité des raisons qui poussaient l'agent au crime ou qui l'en détournaient. Mais ce principe, bien compris, ne fait que coïncider avec celui qu'on vient de poser. Dans un état bien ordonné, où l'organisation elle-même ne renferme pas d'éléments qui poussent à l'infraction, celle-ci ne peut avoir d'autre cause que ce mépris du droit d'autrui à l'usage des instincts, des penchants, des passions criminelles. Mais si l'on comprend autrement cette proposition, si l'on pense qu'il faut toujours opposer aux infractions des peines, dont la gravité dépend directement de la fréquence de ces infractions, causées soit par des circonstances particulières de lieu et de temps, soit par leur nature même, qui se trouve en opposition moins ouverte avec les lois morales, comme c'est le cas dans beaucoup de contraventions de police. Alors cette règle de gradation est injuste et pernicieuse. Elle est injuste. Car, s'il est juste d'admettre que le but de toutes les peines est d'empêcher à l'avenir les violations du droit, d'autant plus qu'aucune peine ne devra jamais être établie en dehors de ce but, l'obligation du condamné à souffrir la peine est fondée sur le fait que chacun doit se résigner à avoir lésé ses droits autant qu'il a injustement lésé les droits d'autrui. Non seulement cette obligation a pour cause le contexte étatique, mais elle existe encore indépendamment de lui. L'affaire découlée d'un contrat réciproque n'est pas seulement inutile. Cela entraîne aussi des embarras. Par exemple, il serait fort difficile de justifier par ce moyen la peine de mort, même dans le cas où certaines circonstances locales la rendraient évidemment nécessaire. Dans ce système, tout coupable pourrait encore s'affranchir de la peine en renonçant au contrat social avant qu'elle ne le frappe. Les anciennes républiques nous fournissent un exemple de ceci dans l'exil volontaire, lequel, toutefois, si je ne me fais illusion, n'était toléré que pour les crimes publics, point pour les crimes privés. Il n'est donc jamais permis à l'offenseur de juger l'efficacité de la peine. Et même s'il était certain que l'offensé sera désormais à l'abri de tout dommage pareil, de sa part, il devrait néanmoins reconnaître la légitimité de la peine. Mais, d'un autre côté, il suit de ce même principe que l'offenseur a le droit de protester contre toute peine, excès dans la mesure de son infraction, quand même il serait certain que cette peine est la seule qui soit efficace, et qu'aucune autre peine plus douce ne le serait entièrement. Entre le sentiment intime du droit et la jouissance du bonheur externe, il existe, du moins dans l'esprit de l'homme, un lien évident. De plus, il est certainement persuadé que le premier lui donne droit au second. On n'a pas à soulever ici la très difficile question de savoir si cette attente du bonheur, que le sort lui donne ou lui refuse, est bien ou mal fondée. Mais, quant au désir de ce que les autres hommes peuvent librement lui donner ou lui retirer, il semble nécessaire de reconnaître qu'il a le droit de le former. Or, l'opinion qu'on vient d'exposer paraît bien, du moins en fait, le lui refuser. Ajoutons que ce système est dangereux pour la sûreté elle-même. Car s'il peut contraindre à obéir à telle ou telle loi individuelle, il ébranle le plus ferme appui de la sûreté dans l'État, à savoir le sentiment de la moralité, en faisant naître un contraste entre le traitement infligé au coupable et le sentiment propre de ce dernier de sa faute. Procurer aux droits d'autrui le respect est le seul moyen sûr et infaillible d'arrêter les infractions. Et l'on n'y arrivera jamais tant que tout violateur du droit d'autrui ne sera pas privé, dans une mesure égale, de l'exercice de son propre droit, que l'inégalité d'ailleurs existerait au détriment ou au profit du coupable. En effet, c'est seule une telle égalité qui préserve l'harmonie entre le développement intime de l'homme et le progrès des institutions sociales, harmonie sans laquelle la législation la plus savante manquera toujours son but. Il est inutile de développer plus loin combien l'application du principe susmentionné nuirait à l'accomplissement de toutes les autres destinées de l'homme, combien il est en opposition avec tous les principes que nous avons précédemment posés. L'égalité entre l'infraction et la peine, exigée par les idées que nous avons développées, ne peut pas se déterminer d'une manière absolue. On ne peut pas formuler d'une manière générale que tel ou tel crime mérite telle ou telle peine. Ce n'est que dans une série d'infractions diverses, suivant leur gravité relative, que l'observation de cette égalité peut être prescrite. Et alors les peines déterminées pour ces méfaits devront être fixées suivant la même gradation. Donc, si, d'après ce qui précède, la détermination de la mesure absolue des peines, par exemple de la peine la plus élevée, doit tendre à infliger la quantité de mal suffisante pour empêcher l'infraction à l'avenir, alors de même la mesure relative des autres peines, quand celle-ci, ou en général une quelconque est établie, doit se déterminer suivant le rapport d'infériorité ou de supériorité qui relie les infractions auxquelles ces peines sont attachées à l'infraction que cette peine originaire a pour mission d'empêcher. Les peines les plus dures devraient par conséquent s'appliquer aux infractions qui contiennent une véritable usurpation sur le domaine du droit d'autrui. Les peines moindres à la transgression de ces lois qui ne sont destinées qu'à prévenir une telle usurpation, quelque importante, est nécessaire d'ailleurs que ces lois soient en elles-mêmes. Par ce moyen, on écarte en même temps de l'esprit des citoyens l'idée qu'ils subissent de la part de l'État un traitement arbitraire ou insuffisamment motivé. Or, c'est là une pensée qui naît très aisément lorsque des peines sévères sont établies pour des actes ou qui n'ont sur la sûreté qu'une influence lointaine ou qui ne s'y rattachent que fort obscurément. Parmi les premières infractions, il faudrait punir sévèrement celles surtout qui portent une atteinte directe et immédiate aux droits de l'État. Car quiconque méprise les droits de l'État, d'où dépend la sûreté privée, ne peut pas davantage respecter les droits de ses concitoyens. Une fois que les infractions et les peines sont ainsi déterminées par la loi, il reste à appliquer cette loi pénale aux infractions individuelles. En ce qui concerne cette application, les principes du droit enseignent tout d'abord comme un point certain que la peine ne doit frapper l'agent que dans la mesure de l'intention coupable qui a présidé à l'accomplissement de l'acte. Mais comme le principe posé plus haut, à savoir que le mépris du droit d'autrui appelle seul et toujours le châtiment, comme ce principe doit être exactement et entièrement appliqué, il ne faut pas le négliger dans la répression des infractions individuelles. Dans tous mes faits commis, le juge doit donc s'efforcer de pénétrer aussi exactement que possible la véritable intention de l'infracteur. Et la loi doit encore lui permettre de modifier la peine générale, suivant que le coupable a eu personnellement une vue plus ou moins nette du droit qu'il a violé. La procédure à suivre contre l'infracteur pendant l'instruction trouve ses règles déterminées aussi bien dans les principes généraux du droit que dans ce qui vient d'être dit. Le juge doit employer tous les moyens légitimes d'arriver à la vérité. Il doit s'abstenir de tous ceux qui sont en dehors des limites du droit. En conséquence, il doit par-dessus tout distinguer soigneusement la citoyen suspect du coupable convaincu. Il ne doit jamais les traiter l'un comme l'autre. En aucun cas, il ne doit attaquer, même le coupable convaincu dans ses droits de l'homme et dans ses droits de citoyen, car celui-ci ne peut perdre les premiers qu'avec la vie et les seconds qu'en vertu d'une exclusion légale et judiciaire qui le fait sortir de la société. Tous les moyens qui renferment une tromperie doivent être défendus aussi bien que la torture. On pourrait peut-être encore les excuser en disant que le suspect, ou du moins le coupable, les a autorisés par ses propres actions. Mais ces moyens sont de toute façon indignes de l'État que le juge représente. Il est clair que les procédés francs et ouverts, même contre les criminels, ont pour le caractère du peuple de salutaires conséquences. Nous en trouvons la preuve, non seulement par le raisonnement, mais aussi par l'exemple des États, qui, comme l'Angleterre, jouissent sur ce point de lois excellentes. Je dois enfin, à propos du droit criminel, essayer de résoudre une question que les efforts de la législation moderne ont rendue fort importante. La question de savoir dans quelle mesure l'État est autorisé ou obligé à prévenir les infractions avant qu'elles ne soient commises. Il n'est guère d'entreprise législative qui soit dirigée par des vues aussi philanthropiques. Le respect dont elle remplit tout homme de cœur fait courir quelques dangers à l'impartialité de celui qui l'étudie. Cependant, je l'avoue, je pense que cette étude est tout à fait indispensable. Si l'on considère l'infinie variété des mouvements de l'âme qui peuvent donner naissance à l'intention criminelle, il semble non seulement impossible d'empêcher cette intention, mais encore dangereux pour la liberté d'en prévenir l'exécution. Comme j'ai essayé précédemment, voyez le chapitre 10, tout entier, de définir le droit qu'a l'État de limiter les actions des individus, on pourrait croire que j'ai par là même répondu simultanément à cette question. Mais en posant alors comme certain que l'État doit entraver les actes, dont les conséquences deviennent facilement dangereuses pour les droits d'autrui, les motifs que j'ai invoqués le démontrent, j'ai entendu parler de ces conséquences, qui découlent exclusivement et par elles-mêmes, de l'acte, et qui auraient pu être évitées si l'agent avait été plus prudent. Au contraire, quand il est question de prévenir le crime, on ne parle naturellement que de limiter les actions d'où découle aisément une autre action, c'est-à-dire l'accomplissement du crime. L'importante différence consiste en ceci que, dans un cas, l'âme de l'agent doit coopérer activement par une détermination nouvelle à la production du fait, tandis que, dans l'autre cas, au contraire, le rôle de l'âme est ou entièrement nul ou purement négatif, puisqu'elle s'abstient de tout fait positif. Cela suffira, je pense, pour faire apercevoir nettement la ligne de démarcation entre ces deux ordres de choses. Toute mesure préventive des infractions doit découler des causes de ces infractions. Si l'on voulait se servir d'une formule tout à fait générale, on pourrait dire peut-être que ces causes si diverses rentrent dans le sentiment de disproportion existant entre les penchants de l'agent et la quantité des moyens légitimes de satisfaction qu'il a en son pouvoir, sentiment qui n'est pas maintenu dans de justes limites par les inspirations de la raison. En général, car en cette matière il est bien difficile de spécifier, on peut distinguer deux cas. D'abord celui où cette disproportion provient vraiment de penchants excessifs, puis celui où il naît de la rareté des moyens, même selon une échelle ordinaire. Dans les deux cas, la faiblesse de la raison et du sens moral doit encore se joindre à l'absence des causes, qui empêcherait la disproportion d'éclater en actes illégaux. Tout effort de l'État pour prévenir les infractions par la suppression de leur cause dans la personne même de l'infracteur devra donc tendre, suivant la différence des deux cas rapportés, soit à changer et à améliorer les situations qui peuvent aisément mettre les citoyens dans la nécessité de commettre des infractions, soit à refouler les penchants qui ont l'habitude de les conduire à la violation des lois, soit enfin à donner au principe de la raison et au sens moral une énergie plus efficace. Un autre moyen encore de prévenir les infractions est de rendre plus rares, au moyen des lois, les occasions qui en facilitent la perpétration ou favorisent l'explosion des passions mauvaises. Examinons tous ces modes d'action sans en négliger aucun. Le premier, qui tend à améliorer seulement les situations qui conduisent au crime, paraît être de tous celui qui entraîne le moins d'inconvénients. C'est une chose excellente par elle-même que d'augmenter l'abondance des moyens, tant de la force que de la jouissance. La libre action de l'homme n'en est point directement entravée. À la vérité, il est incontestable qu'on peut signaler ici toutes les conséquences indiquées au commencement de cette étude comme découlant du soin pour le bien physique des citoyens. Mais si elles se produisent, c'est dans une bien faible mesure, puisque ce soin ne porte ici que sur bien peu de personnes. Toutefois, ces conséquences se produisent bien réellement, surtout la lutte entre la morale intérieure et la situation extérieure en est supprimée. Et avec elle, l'influence salutaire sur la fermeté du caractère de l'agent, sur la bienveillance et le soutien réciproque des citoyens. De plus, comme il faut que ce soin ne porte que sur des individus isolés, il en résulte que l'État doit nécessairement s'occuper de la situation personnelle des citoyens. Ce sont là des inconvénients bien réels qu'on ne saurait oublier qu'en songeant qu'évidemment la sûreté de l'État souffrirait de l'absence d'une telle préoccupation. Mais il me semble que la nécessité en peut, non sans raison, être révoquée en doute. Dans un État dont l'organisation n'impose pas aux citoyens de situation d'urgence, mais qui, au contraire, leur assure une liberté semblable à celle que cet écrit recommande, il est presque impossible que des situations comme celles que l'on a dépeintes se produisent, et qu'on ne trouve pas de moyen de salut, en dehors de toute intervention de l'État, dans la libre assistance des citoyens à moins que la cause en serait à chercher dans la conduite de l'homme lui-même. Mais alors, il n'est pas bon que l'État se jette à la traverse et trouble l'ordre de fait, que l'ordre naturel des choses fait naître des actions de l'homme. Du reste, ces situations ne se produisent que si rarement, qu'en général, l'intervention de l'État est inutile. Ces avantages ne sauraient l'emporter sur ces inconvénients, qu'il n'est pas besoin d'exposer en détail après, tout ce que l'on en a déjà dit. D'un ordre tout opposé sont les motifs qui militent pour et contre le second mode d'effort, tendant à prévenir les infractions, contre celui qui prétend agir sur les penchants et les passions des hommes eux-mêmes. D'un côté, en effet, la nécessité d'une intervention paraît plus pressante, lorsque la bride leur étant lâchée, les jouissances arrivent à de plus grands excès, lorsque les âmes reculent le but de leurs désirs, et lorsque le respect du droit d'autrui, qui croit toujours avec la vraie liberté, cesse cependant d'avoir une influence suffisante. Mais, d'un autre côté, on voit toujours grandir le mal dans la mesure où la nature morale ressent chaque lien plus vivement que la nature physique. J'ai essayé d'expliquer plus haut les raisons qui font que le travail de l'État, tendant à améliorer les mœurs des citoyens, n'est ni nécessaire ni salutaire. Ces raisons s'appliquent ici, dans toute leur étendue, avec cette seule différence qu'ici l'État ne veut pas réformer les mœurs en général, mais qu'il veut seulement agir sur les actes particuliers qui mettent en danger l'obéissance aux lois. Mais précisément cette différence fait que la somme des inconvénients en est augmentée. En effet, ce travail de l'État n'exerçant pas d'action générale doit d'autant moins atteindre son but, de telle sorte que le bien étroit qu'il se propose ne vient pas même compenser le mal qu'il produit. Et puis, cela ne suppose pas seulement une surveillance de l'État sur les actes privés des individus, mais suppose aussi un pouvoir d'agir sur ses actes, qui devient plus pernicieux encore, à cause des personnes auxquelles il faudra le confier. Il est nécessaire, en effet, que la surveillance sur la conduite des citoyens, et sur la situation qui en résulte, soit confiée, soit à des gens institués ad hoc, soit à ceux qui ont déjà le titre de fonctionnaire de l'État. Cette surveillance s'exercerait, ou sur tous les citoyens, ou seulement sur ce qu'on y déclarerait soumis. De là, un despotisme nouveau, et plus oppresseur qu'aucun autre, quel qu'il puisse être. Cela donne lieu à la curiosité indiscrète, à l'intolérance exclusive, à l'hypocrisie, et à la dissimulation. Qu'on ne me reproche point de ne dépeindre ici que des abus. En ceci, l'abus est indissolublement lié à l'institution elle-même, et j'ose dire qu'alors même que ces lois seraient aussi bien faites, et aussi philanthropiques que possible, quand même elles ne permettraient aux surveillants que des recherches suivant des moyens légaux et légitimes, quand elles n'autoriseraient que des conseils, ou des exhortations éloignées de toute contrainte, quand la plus stricte obéissance à ces lois serait observée, une pareille institution serait toujours inutile et nocive. Tout citoyen doit pouvoir agir librement, comme il l'entend, tant qu'il ne transgresse pas la loi. Chacun doit avoir le droit de dire à tout venant, même contre toute vraisemblance au jugement d'un tiers, si près que je côtoie le danger de violer la loi, je n'y tomberai pas. Gêner l'homme dans cette liberté, c'est porter atteinte à son droit, c'est nuire au progrès de ses facultés, au développement de son individualité. En effet, les formes que peuvent revêtir la morale et la légalité sont infiniment nombreuses et diverses. Et quand un tiers décide que telle ou telle manière d'agir doit nécessairement conduire à des actes illégitimes, il suit son opinion à lui. Elle peut bien être très vraie en ce qui le concerne, mais elle n'est jamais qu'une seule opinion. Admettons même qu'il ne se trompe pas, que le succès même justifie son jugement, et qu'un autre homme, sous l'influence de la contrainte à laquelle il cède, ou du conseil qu'il suit, sans être persuadé intérieurement, ne viole pas pour cette fois la loi, qu'il aurait violée si la contrainte ou le conseil n'avaient pas existé. Cependant, pour l'infracteur lui-même, il vaut mieux subir une fois le mal de la peine, et retenir la pure leçon de l'expérience, que d'éviter ce mal sans que ses idées se soient en rien rectifiées, sans que son sens moral se soit aucunement exercé. Qu'une transgression de plus à la loi trouble le repos, mais que la peine qui en résulte serve d'enseignement et d'avertissement. Pour la société, cela sera mille fois préférable au maintien accidentel du repos, alors que la base du tout repos, et de toute sûreté pour les citoyens, à savoir le respect du droit d'autrui, ne sera ni plus grande, ni augmentée par l'occasion, ni favorisée. Mais de toute façon, une pareille institution n'aura que bien difficilement l'influence dont on vient de parler. Comme tous les moyens qui ne vont pas directement à la source interne de toutes les actions, elle ne détruira pas les idées contraires à la loi, elle leur donnera simplement une autre direction, et fera naître une dissimulation doublement dangereuse. J'ai toujours supposé ici que les personnes destinées à remplir cette fonction de surveillant ne produisent aucune conviction, mais qu'elles agissent seulement par des moyens extérieurs. On peut penser que je n'ai pas le droit de faire cette supposition. Qu'il soit salutaire d'avoir de l'influence sur ses concitoyens et sur leur moralité par l'autorité de l'exemple et par des conseils persuasifs, c'est là une vérité tellement éclatante d'évidence qu'il n'est pas besoin de la rebattre par de longues paroles. Aussi, dans tous les cas où l'institution que j'étudie produira ce dernier résultat, mon raisonnement ne saurait être appliqué. Seulement, il me semble qu'une prescription législative ne peut être qu'un moyen, non seulement inefficace, mais encore contraire à ce but qu'on se propose. D'un côté, les lois ne sont pas le lieu pour recommander la vertu, mais pour imposer des devoirs sous sanction. Et il n'est pas rare qu'en souffre la vertu, que chaque homme n'aime à pratiquer que librement. Toute prière de la loi, tout conseil donné par une autorité légale est alors un ordre, auquel, en théorie, les hommes ne sont pas obligés d'obéir, mais auquel, en réalité, ils obéissent toujours. Enfin, n'est-il pas une foule de circonstances et de penchants qui peuvent les pousser à suivre un tel conseil, même contrairement à toutes les aspirations de leur conviction intérieure? Telle est communément la nature de l'influence possédée par l'État vis-à-vis de ceux qui sont préposés au maniement de ses affaires et dont il veut se servir pour exercer son action sur les autres citoyens. Comme ces personnes sont liées envers lui par des conventions particulières, il est évident et incontestable qu'il a sur elles plus de droits que sur le reste des citoyens. Mais s'il respecte les principes de la plus grande liberté légitime, il n'essaiera jamais de leur demander autre chose que l'accomplissement des devoirs civils en général et des devoirs particuliers que leur charge nécessite. Car en l'occurrence, il exerce une action positive manifestement exagérée toutes les fois qu'il demande à ses fonctionnaires, en vertu de leur situation spéciale, des choses qu'il lui est défendu d'exiger des autres citoyens. Sans qu'il y ait besoin d'aller au-devant d'elles, les passions des hommes ne s'offrent déjà que trop volontiers à lui. Qu'il s'applique à combattre le mal qui vient de cet empressement. Ce sera pour son zèle et sa perspicacité un travail déjà suffisant. L'État trouve plus directement l'occasion de prévenir les infractions par la destruction des causes inhérentes au caractère des individus dans ces hommes qui, par leur désobéissance aux lois, font naître des craintes légitimes pour l'avenir. Pour cette raison, les législateurs modernes les plus avisés se sont-ils appliqués à faire du châtiment un moyen d'amélioration? Certes, il faut écarter de la peine qui frappe les infracteurs, non seulement ceux qui pourraient en quoi que ce soit nuire à leur moralité, mais il faut encore leur laisser tous les moyens, compatibles d'ailleurs avec le but de la peine, de redresser leurs idées et de purifier leurs sentiments. Toutefois, cet enseignement ne doit pas être imposé à l'infracteur. S'il l'était, il perdrait par là même son utilité et son influence. Une pareille contrainte violerait encore le droit du criminel, qui n'est obligé à subir rien d'autre que la peine légale. C'est un cas tout à fait spécial que celui où l'accusé a contre lui trop de charges pour ne pas exciter de vifs soupçons, mais pas assez pour être condamné, absolutio ab instantia. Faut-il alors lui concéder la liberté entière que l'on accorde aux citoyens irréprochables? Le soin dû à la sûreté démontre que cela serait dangereux. Une surveillance assez longue sur sa conduite à venir est donc tout à fait nécessaire. Toutefois, les motifs qui font que tout travail positif de l'État est dangereux et qui conseillent en général de substituer à son action, quand cela est possible, l'action privée des individus, font qu'ici encore, on doit préférer la surveillance des citoyens à la surveillance de l'État. On pourrait donc exiger que des cautions sur ce portasse garantent des personnes suspectes. Cela vaudrait mieux que de livrer celle-ci à la surveillance directe de l'État, qui, lui, ne devrait intervenir qu'à défaut de caution. La législation anglaise fournit des exemples de semblables cautionnements, non pas à la vérité dans ce cas précis, mais dans des cas analogues. Il est un dernier mode de prévenir les infractions. C'est celui qui, sans s'occuper de leur cause, tend à empêcher leur accomplissement effectif. De tous, c'est celui qui fait le moins de tort à la liberté, car c'est lui qui permet le moins l'action positive sur les citoyens. Toutefois, il peut avoir des limites plus ou moins reculées. Par exemple, l'État peut s'en tenir à avoir l'œil ouvert sur tout dessein illégal et à l'arrêter avant son accomplissement. Ou bien, allant plus loin, il peut interdire les actions innocentes en soi, mais qui peuvent conduire à ce qu'une infraction soit exécutée ou seulement décidée. Ce dernier procédé porte de nouveau atteinte à la liberté des citoyens. Il montre une défiance de l'État contre eux qui est non seulement nuisible à leur caractère, mais encore contraire au but qu'ils se proposent. On doit l'écarter pour les raisons mêmes qui m'ont paru repousser les autres moyens de prévenir les infractions. Tout ce que l'État peut faire doit donc être limité, tant dans l'intérêt de ses propres vues que par égard pour la liberté des citoyens. Il ne peut user que du premier de ses procédés, de celui qui consiste à surveiller le plus activement possible les transgressions de la loi, ou consommées ou projetées. Et, comme ceci ne peut pas s'appeler proprement aller au-devant des infractions, je crois pouvoir dire qu'aller vraiment au-devant des infractions est tout à fait en dehors des bornes de l'action de l'État. Mais celui-ci doit d'autant plus se montrer vigilant à ne laisser aucun crime commis sans être découvert, à ne laisser aucun crime découvert impuni, et à ne jamais le frapper d'une peine plus faible que celle édictée par la loi. En effet, la conviction que les citoyens tireront d'une expérience continue, qu'il ne leur est pas possible d'usurper le droit d'autrui sans subir une lésion proportionnée de leurs propres droits, me paraît l'unique rempart de la sûreté publique, le seul moyen de fonder le respect indestructible du droit d'autrui. Et ce moyen d'agir sur le caractère de l'homme est le seul qui soit digne de lui. Car on ne doit point le contraindre ou le pousser directement à agir de telle ou de telle manière. On doit l'y déterminer en lui montrant les conséquences qui, par la nature des choses, doivent nécessairement découler de sa conduite. Je remplacerai tous les procédés plus compliqués et plus savants en proposant simplement de faire de bonnes lois bien réfléchies. D'édicter des peines proportionnées exactement, dans leur mesure absolue aux circonstances locales, dans leur mesure relative au degré d'immoralité des infractions. De rechercher aussi soigneusement que possible toute violation consommée de la loi. D'abolir la possibilité même d'un adoucissement de la peine prononcée par le juge. Ce moyen très simple agira lentement, je le reconnais, mais il agira immanquablement, sans aucun préjudice à la liberté, mais avec une influence salutaire sur le caractère des citoyens. Je n'ai pas besoin de m'arrêter plus longtemps aux conséquences des principes posés ici, par exemple, à cette vérité déjà proclamée tant de fois, que le droit de grâce et même le droit de commutation de peine concédée au souverain devraient être entièrement abolis. Ces conséquences vont de soi. Les mesures plus directes que doit prendre l'État pour découvrir les crimes consommés ou pour s'opposer aux crimes résolus dépendent entièrement des circonstances particulières des situations spéciales. On ne peut hasarder aucune affirmation générale, sinon que l'État ici encore ne doit point excéder ses droits ni user de moyens inconciliables avec la liberté des citoyens ou avec leur sûreté domestique. Au contraire, il peut établir des surveillants pour les lieux publics où les crimes se commettent le plus facilement. Il peut instituer un ministère public qui, en vertu de sa charge, agira contre les personnes suspectes. Et il peut enfin édicter des lois qui obligent tous les citoyens à l'aider dans ce travail, en dénonçant non seulement les crimes projetés, mais non encore commis, mais également les crimes déjà commis, ainsi que leurs auteurs. Il doit toujours exiger ce dernier service comme un devoir, et ne jamais y pousser par la proposition de prime ou de récompense, afin de ne pas exercer d'influence mauvaise sur le caractère des citoyens. Il doit même dispenser de ce devoir ceux qui ne pourraient pas l'accomplir sans briser les liens les plus étroits. Enfin, avant de terminer cette matière, je dois encore faire observer que toutes les lois criminelles, aussi bien celles qui fixent les peines que celles qui déterminent la procédure à suivre, doivent être portées entièrement à la connaissance de tous les citoyens sans distinction. Il est vrai que l'on a soutenu le contraire par différentes considérations, et que l'on a mis en avant cette raison que le citoyen ne doit pas avoir le choix d'acheter le bénéfice résultant de l'acte illégitime au prix du mal renfermé dans le châtiment. Mais admettons même qu'il soit possible de le tenir longtemps secret. Quelque immorale que fût cette considération chez celui qui la concevrait, l'État, et en général, aucun homme ne pourrait la défendre à autrui. On a démontré suffisamment, je pense, que nul ne peut infliger à titre de peine, à son semblable, un mal plus grand que celui qui lui a été occasionné par l'infraction. Sans une détermination légale, l'infracteur devrait donc attendre une peine à peu près égale au prix qu'il attachait à son infraction, et comme cette appréciation serait différente suivant les personnes, il est tout naturel de déterminer par la loi une mesure fixe, et de baser sur un contrat, sinon l'obligation de souffrir la peine, l'obligation de ne pas dépasser arbitrairement toute limite dans l'application de la peine. Ce secret serait encore plus illégitime dans la procédure à suivre pour la recherche des infractions. Évidemment, il ne pourrait servir qu'à faire craindre l'emploi de ces moyens dont l'État lui-même ne croit pas devoir user. Or l'État ne doit jamais avoir la volonté d'agir par la crainte, car elle ne peut entretenir rien d'autre chez les citoyens que l'ignorance de leurs droits ou la peur que l'État ne respecte point ses droits. De tout ce qui précède, je tire ces grands principes généraux qui sont la base de tout droit pénal. 1 degré, l'un des principaux moyens de maintenir la sûreté et de punir les violateurs des lois de l'État. L'État peut infliger une peine à tout acte qui porte atteinte aux droits des citoyens et à tout acte contenant violation de l'une de ses lois, en tant que le désir de conserver la sûreté le guide dans leur rédaction. 2 degrés, la peine la plus élevée doit toujours être aussi douce que le permettent les circonstances particulières de temps et de lieu. Après celle-ci, toutes les autres peines doivent être déterminées suivant la mesure où les crimes contre lesquels elles sont dirigées supposent le mépris du droit d'autrui de la part de l'infracteur. Par conséquent, la peine la plus grave doit frapper celui qui a violé le droit le plus fondamental de l'État lui-même. Une peine moins dure doit atteindre celui qui a lésé un droit aussi important appartenant à un citoyen isolé, et enfin une moins grave encore doit s'appliquer à celui qui a simplement transgressé une loi dont le but était d'empêcher une telle lésion, alors qu'elle n'était encore qu'à l'état de possibilité. 3 degrés, toute loi pénale ne peut être appliquée que à celui qui l'a violée avec une intention coupable, et seulement dans la mesure où il a par là témoigné de son mépris pour le droit d'autrui. 4 degrés, dans la recherche des crimes consommés, l'État doit, il est vrai, employer tout moyen convenable pour arriver à son but, mais jamais ceux qui traiteraient le citoyen simplement suspect déjà comme un criminel, ni ceux qui attaqueraient les droits de l'homme et du citoyen, que l'État doit respecter, même dans la personne du criminel, ni ceux qui rendraient l'État coupable d'un acte immoral. 5 degrés, l'État ne doit se permettre les mesures réellement destinées à prévenir les crimes non encore commis qu'autant qu'elles empêchent leur perpétration directement. Toutes les autres sont en dehors des bornes de l'action de l'État, qu'elles s'opposent à la cause déterminante des crimes, ou qu'elles tendent à empêcher des actes innocents en soi, mais pouvant aisément conduire à des infractions. Si l'on croyait apercevoir une contradiction entre ce principe et celui qui a été posé à l'occasion des actes des individus, il faudrait se rappeler qu'alors, il était question de ces actes dont les conséquences peuvent par elles-mêmes léser les droits d'autrui, et qu'ici, l'on ne parle que de ce deux, où un deuxième acte doit naître tout d'abord, pour que cet effet soit produit. Ainsi la dissimulation de la grossesse, pour rendre ceci frappant par un exemple, ne devrait pas être défendue, afin de prévenir l'infanticide, à moins de considérer la grossesse comme un signe de l'intention de commettre ce dernier, mais elle devrait l'être comme une action qui, en elle-même, et sans aucun rapport avec un acte postérieur, peut être dangereuse pour la vie et la santé de l'enfant. C'était du soin de l'État pour la sûreté par la punition des transgressions aux lois édictées par lui, loi pénale. Fin du chapitre 13.